Bonjour à tous. Nous abordons aujourd'hui le cours 5 qui va être divisé en deux. Et aujourd'hui, dans ce fichier audio, on va aborder la première partie qui sera consacrée à la divinisation de l'homme selon Bernard de Clairvaux. Vous avez en PDF le cours entièrement rédigé et les textes que l'on va travailler. Alors, en introduction, je dirais que la divinisation de l'homme est un thème central de la pensée chrétienne. Elle apparaît avec les pères de l'Église, surtout les pères grecs, et se développe jusqu'au XIIe siècle, où on développera, à partir du XIIe siècle, donc, une théologie de la grâce en lieu et place du thème de la divinisation. Ce thème est patristique et il appartient aussi à la spiritualité chrétienne. Et la notion de divinisation n'apparaît pas dans l'Écriture. En revanche, on trouve celle de filiation en lien avec laquelle elle sera pensée. Donc, je vais vous donner en guise d'introduction quelques citations des pères grecs. On va commencer par Irénée, dans le Contre les hérésies, qui dit « Le Verbe de Dieu s'est fait homme, et celui qui est fils de Dieu s'est fait fils de l'homme, uni au Verbe de Dieu, pour que l'homme reçût l'adoption et devint fils de Dieu. Comment aurions-nous pu être unis à l'immortalité si l'incorruptibilité et l'immortalité n'était pas devenu préalablement ce que nous sommes. » Dans le Protreptrique, chez Clément d'Alexandrie, on lit que « Le Verbe de Dieu s'est fait homme pour que tu apprennes d'un homme comment l'homme peut devenir Dieu. » C'est ce Verbe qui nous gratifie de l'héritage paternel, réellement grand et divin et inadmissible. Il divinise, théopoion en grec, l'homme, par un enseignement céleste. Chez Athanase, on lit que le Verbe s'était fait homme pour que nous devenions Dieu. Il s'est rendu visible en son corps pour que nous nous fassions une idée du Père invisible. Il a supporté les outrages des hommes afin que nous ayons part à l'immortalité. Ou encore, un seul fils est par nature, nous autres, nous devenons également fils, non toutefois comme lui par nature et en vérité, mais selon la grâce de celui qui nous appelle. Tout en étant des hommes terrestres, nous sommes appelés Dieu, non pas comme le Dieu véritable en son Verbe, mais comme l'a voulu Dieu qui nous a conféré cette grâce. Et enfin, chez Maxime le Confesseur, par sa passion, il a concédé à la nature l'impassibilité. Par ses œuvres, le repos. Par sa mort, la vie sans fin. Il l'a rétabli en son premier état. Par les frustrations qu'il a subies en sa propre chair, il a renouvelé les dispositions de la nature. Et par sa propre incarnation, il a fait don à la nature d'une grâce surnaturelle, la divinisation. La divinisation chrétienne a comme médiateur le Christ. Les grands spirituels chrétiens, de Bernard de Clairvaux à Jean de la Croix, Sainte Thérèse de Lisieux et Élisabeth de la Trinité, par exemple, ne sont pas les représentants d'une mystique universelle. Le Christ est indispensable et nécessaire à l'union mystique. C'est ce qui les distingue non seulement des mystiques des autres confessions, mais aussi de la philosophie, notamment platonicienne et néoplatonicienne. Puisque la filiation, à savoir devenir fils adoptif de Dieu par la grâce de l'incarnation, est le nom chrétien de la divinisation du fidèle, nombre de mystiques ont développé la voie de l'imitatio Christi, de l'imitation du Christ, de sa vie et de ses souffrances. À son abaissement, ou encore sa kénose en termes théologiques, répond notre élévation. Mais cette dernière a pour condition une vie d'abandon de soi, thématisée de façon différente par les auteurs. Nous en verrons deux, Saint Bernard de Clairvaux et Maître Eckhart. Aujourd'hui, nous nous contenterons, et c'est déjà beaucoup, de Saint Bernard de Clairvaux. Enfin, il est remarquable de noter que la latinité occidentale, surtout à partir du XIIIe siècle, a moins développé que l'Orient le thème de la divinisation de l'homme. Elle insistera davantage sur la sainteté, avec cette idée que Dieu s'est fait homme en vue de racheter le péché plus que pour le rendre à sa ressemblance. Il y a là assurément un legs augustinien. Alors, Grandin, Saint Bernard de Clairvaux, Petit 1, l'homme et son temps. Alors, au début du XIIe siècle, il y a deux tendances. Une tendance à la logicisation, à la classification du savoir, qui est la tendance d'un philosophe qui s'appelle Abélard, qui reprend les œuvres d'Aristote. Et en même temps que cette première tendance, on voit renaître au XIIe siècle un mouvement contraire. C'est le mouvement mystique, à la tête duquel se trouve Bernard de Clairvaux. Ce mouvement est très clairement anti-rationnel. Il vise un amour tel de Dieu qu'il permet la possibilité d'une union gracieuse et sans confusion entre l'âme et le Créateur. Ce mouvement est lié au renouveau de l'idéal monastique. Sont fondés parmi les ordres les plus connus au XIIe siècle, les Templiers, les Chartreux dont la devise est « Stat crux dum volvitur orbis », la croix demeure pendant que la terre tourne, qui rappelle au monde la stabilité de la croix et la présence du Christ. Mais l'ordre le plus remarquable qui se fonde est celui des Cisterciens. Sitôt a été fondé en 1098 par Robert de Molesme et Étienne Harding, en est l'abbé depuis janvier 1108. Les fondateurs se sont détachés de l'abbaye de Cluny, dont l'idéal s'était terni par une vie monastique plus molle et par l'attrait des richesses. Sitôt, c'est l'appel au retour d'une vie monastique selon l'Évangile et la stricte règle de Saint Benoît. Simplicité, pauvreté, rupture avec le monde extérieur, silence, oraison, travail manuel. Bernard écrira à Murtac « O beata solutido, o sola beatitudo. Pardon. O bienheureuse solitude, o seule béatitude. » Bernard rentra sitôt avec 30 membres de sa famille proche. Il y pratique une vie d'extrême autorité, jointe à des mortifications corporelles qui rendront jusqu'à la fin de sa vie sa santé fragile. Toute sa vie, il sera souffreteux et malade. En 1115, Harding envoie Bernard à la tête d'un groupe de 12 moines fonder une nouvelle abbaye cistercienne. Elle est appelée Claire Vallée, Clara Vallis, Clairvaux. Cette charge est à l'origine de tiraillements intérieurs pour Bernard, qui est partagé entre son aspiration à une vie de solitude adonnée à la contemplation et le soin de diriger des moines qu'on lui confie. Il les poussera dans cette voie ascétique dans laquelle il s'est engagé. En témoignent toutes les lettres qu'il envoie à ses frères alors qu'il n'est pas auprès d'eux, lettres marquées à la fois d'une très grande exigence ascético-spirituelle et d'un vif amour fraternel. Dans votre PDF, il y a une digression sur le conflit entre Bernard de Clairvaux et Abélard. Ceux que ça intéresse peuvent regarder. Je n'en parle pas dans ce fichier audio. Bernard, c'est aussi celui qui sillonne l'Europe occidentale pour débusquer les hérésies, en particulier le catharisme. Il fait reconnaître les statuts de la milice du Temple, les Templiers, et réussit à faire accepter par le Concile de Troyes en 1129, auquel il participe, un ordre de moines appelé à manier l'épée et à verser du sang. C'est ce qui donne naissance à la notion de guerre sainte, pour laquelle, en 1145, Bernard prêchera la seconde croisade. Enfin, Bernard, à une époque où l'on rendait les Juifs responsables de la mort du Christ, les protège des pogroms et les défend. Il meurt le 20 août 1153 à 63 ans, au même âge que son ennemi Abélard. Alors, deuxièmement, la distinction bernardienne entre volonté propre, volonté divine et volonté commune. Voilà ce qu'il dit dans le troisième sermon pour les fêtes de Pâques. Quant au cœur, il peut être rongé par deux sortes de lèpre aussi, par celle de la volonté propre et par celle du propre conseil. Deux véritables pestes, d'autant plus dangereuses qu'elles ne paraissent point au dehors. Or, j'entends par volonté propre celle qui n'est pas en même temps volonté de Dieu et volonté des hommes, mais uniquement nôtre, ce que nous voulons, ce n'est point pour la gloire de Dieu, ni pour le bien de nos frères, mais pour notre satisfaction personnelle que nous le voulons. Elle est diamétralement opposée à la charité, qui n'est autre que Dieu. En effet, elle soulève des inimitiés et fait une guerre des plus cruelles à Dieu. En effet, qu'est-ce que Dieu déteste et punit, sinon la volonté propre? Que notre volonté propre cesse d'exister, il n'y a plus d'enfer. Quel aliment, en effet, ces flammes dévoreront-elles dès que notre volonté propre ne leur en fournira plus? Or, maintenant, lorsque la faim ou le froid ou toute autre chose nous fait souffrir, qu'est-ce qui est blessé en nous, sinon la volonté propre? Au contraire, dès que nous souffrons ces choses avec patience, il n'y a plus de volonté propre en nous, elle devient commune, mais il nous reste toujours une sorte de faiblesse et de démangeaison dont nous avons toujours à souffrir dans toutes nos peines, jusqu'à ce que tout soit consommé. Or j'entends par volonté propre celle qui nous anime et qui fait plier notre libre arbitre sous elle. Or tous ces désirs et toutes ces concupiscences qui nous dominent malgré nous, ce sont moins une volonté qu'une corruption de la volonté. Mais que les esclaves de leur volonté propre apprennent et tremblent en l'apprenant, avec quelle fureur elles attaquent le Seigneur de toute majesté. En premier lieu, elle se soustrait au pouvoir et s'arrache à la domination de celui-ci, à qui elle devrait être soumise comme à son auteur, tant qu'elle se fait sienne. Mais se contentera-t-elle du moins de cette injustice? Non, certes, elle va beaucoup plus loin, elle ôte, elle ravit autant qu'il est en elle tout ce qui appartient à Dieu. En effet, quelle borne se pose la cupidité humaine? Est-ce que celui, par des pratiques usuraires, a acquis quelques misérables pièces d'argent, n'essaierait point d'acquérir le monde entier, s'il le pouvait, si ses moyens répondaient à son désir. Je le dis hardiment, il n'y a pas d'homme esclave de sa volonté propre dont l'ambition serait satisfaite de la possession du monde entier. Mais plût à Dieu qu'elle se contenta de cette possession et qu'elle n'alla point, ô horreur, jusqu'à porter les mains sur son Créateur même. Or, c'est ce qu'elle fait autant qu'elle est en elle. Oui, la volonté propre s'attaque même à Dieu. En effet, elle voudrait que Dieu ou ne pût ou ne voulût point punir ses excès, ou bien même qu'il n'en eût point connaissance. Elle voudrait donc que Dieu ne fût pas Dieu, puisqu'elle voudrait, autant que cela dépend d'elle, qu'il fût impuissant, injuste ou ignorant. N'y a-t-il pas une malice aussi cruelle qu'exécrable à souhaiter qu'il n'y ait plus en Dieu ni puissance, ni justice, ni silence? Or c'est la volonté propre qui est cette bête cruelle et féroce, pire que toutes les bêtes féroces, cette lionne dévorante. Voilà qu'est la lèpre hideuse de l'âme, pour laquelle il faut alors nous plonger dans le Jourdain et imiter celui qui n'est pas venu pour faire sa volonté, comme il le dit dans la Passion, lorsqu'il s'écrie « Que ne soit pas ma volonté, mais la vôtre qui se fasse, ô mon Père. » Pour pouvoir se débarrasser de cette lèpre que constitue la volonté propre, il y a une vertu fondamentale à acquérir, la vertu bernardienne par excellence, qui est l'humilité. C'est en son nom que Bernard critique par ailleurs l'orgueil d'Abélard, des dialecticiens et des philosophes. L'humilité consiste d'abord à reconnaître pleinement son statut de créature. Voilà ce que dit Bernard dans l'un de ses sermons d'hiver. Or, le résumé de toute humilité semble consister en ceci, que notre volonté, comme il convient, se soumette à la volonté de Dieu. Le prophète dit en effet, « N'est-ce pas à Dieu que notre âme se soumettra ?» Je le sais bien, toute créature, qu'elle le veuille ou non, est assujettie à Dieu. Mais de la créature douée de raison, on attend une soumission volontaire, on demande que librement elle offre au Seigneur ses sacrifices et confesse son nom, ni parce qu'il est terrible et saint, ni non plus parce qu'il est tout-puissant, mais parce qu'il est bon. Cette soumission prend une triple forme. Elle consiste en premier lieu à vouloir sans restriction ce que Dieu veut certainement. En deuxième lieu, à avoir en horreur ce qu'il refuse certainement. Enfin, dans le cas où l'on n'est pas sûr de ce qu'il veut ou ne veut pas, à s'abstenir de vouloir ou de refuser catégoriquement. L'humilité consiste à soumettre sa volonté propre à la volonté divine. La volonté humaine, en effet, puisqu'elle a été déformée par le péché, a tendance à suivre des inclinations particulières et égoïstes. Elle est en réalité une volonté corrompue, puisque dans l'état prélapsaire, l'homme obéissait à la volonté de Dieu. Je rappelle, prélapsaire, ça veut dire avant le péché. Ontologiquement, nous dit Bernard, toute créature est assujettie à Dieu, parce qu'elle dépend de lui dans son être propre. Il y a là comme un premier degré d'humilité qui n'est cependant pas la vertu d'humilité qui résulte d'un acte volontaire de soumission. Refus de suivre son propre conseil et reconnaissance de son être en toute vérité. Pour y parvenir, il faut une discipline ascétique. À ce sujet, voilà ce que dit Bernard dans le troisième sermon pour le jour de l'Ascension, dont je lis ici le paragraphe 7, mais vous avez des passages plus complets dans vos fichiers PDF. Or, cette tiédeur pernicieuse vient de ce que leur affection, c'est-à-dire leur volonté, n'est pas encore purgée, et que, pour eux, connaître le bien, ce n'est pas encore le vouloir, parce qu'ils sont toujours pesamment attirés et subjugués par leur propre concupiscence. En effet, ils aiment dans leur chair toutes ces prévenances terrestres qui se manifestent en un mot, par un signe, par un fait, et de mille autres manières, et s'ils y renoncent quelquefois, ce n'est jamais sans espoir de retour. Voilà d'où vient qu'ils dirigent rarement leurs affections vers Dieu. Leur compunction n'est pas de tous les moments, elle a ses heures, et si je puis dire, ses moments. Or l'âme ne saurait être remplie de la grâce du Seigneur dès qu'elle est sujette à toutes ses distractions. Mais si elle se dégage de celle-ci, elle sera comblée de celle-là, mais elle sera d'autant plus ou d'autant moins remplie de la grâce qu'elle se sèvera plus ou moins de ses distractions charnelles. Ou plutôt, si vous l'aimez mieux, jamais, au grand jamais, les consolations de la grâce ne se mêleront à celles de la chair, car dès que leur huile ne se trouve plus de vase vide, elle cesse de couler. D'ailleurs, on ne peut mettre le vin nouveau que dans des outres nouvelles, si on veut conserver le vin et les outres. En effet, on ne peut mettre ensemble l'esprit et la chair, le feu et la tiédeur, surtout quand on sait que la tiédeur provoque le dégoût et les nausées au Seigneur même. C'est au moyen d'une ascèse purificatrice que la volonté peut se dépouiller d'elle-même afin de suivre la volonté divine. Par l'éveil, tel le Christ priant avant de se faire livrer, le jeûne et la frugalité, le Christ a jeûné 40 jours dans le désert, la rugosité des vêtements, référez-vous à l'épisode de Jonas et Ninive, par le travail. Il s'agit d'élaborer une discipline, voire un dressage du corps et de la sensibilité en lutte contre la concupiscence. La concupiscence, à savoir l'attachement au bien sensible. Il y a une concupiscence de la chair, une concupiscence des yeux et une concupiscence de l'esprit. C'est la concupiscence, c'est lorsque il y a un attachement et un plaisir indu qui est pris dans nos diverses activités et qui nous détourne de Dieu. Maintenant, reprenons les distinctions entre volonté propre, volonté divine et volonté commune. J'entends par volonté propre, dit Bernard, celle qui n'est pas en même temps volonté de Dieu et volonté des hommes. Dans la mesure où l'homme rejette sa volonté propre, il développe en lui la disposition à l'humilité, qu'il parvient ensuite à la charité, à savoir une volonté commune impliquant le partage. La volonté commune, c'est la volonté humaine qui s'associe, se joint à celle de Dieu d'une façon telle qu'elle devient l'instrument de la volonté divine. Volonté commune, donc, c'est la volonté commune de la volonté humaine et de la volonté divine. Bernard a des remarques très fines au sujet de l'ampleur des vices de la volonté propre. De même que l'humilité devient une disposition, un habitus, de même la volonté propre, lorsqu'elle n'est pas bridée par l'humilité, ça donne aux vices, à l'ambition, à la richesse, au pouvoir. Et la possession du monde entier ne saurait la satisfaire. Épicure aurait dit que ce sont des désirs non naturels et non nécessaires. Et les désirs non naturels et non nécessaires mènent toujours à une insatisfaction permanente. On veut toujours plus. La solution, ce sera l'imitation du Christ, venu non pour faire sa volonté, mais celle de son Père. Alors, troisième point, connaissance de soi et connaissance de Dieu. Voilà ce que dit Bernard dans les sermons divers, sermon 40. Les sentiers qui composent cette voie de la confession sont nombreux et compliqués à trouver, difficiles à tenir, impossibles à énumérer. Le premier de ces sentiers et le premier degré sur ce chemin est la connaissance de soi. Du ciel est tombée la maxime « Homme, connais-toi toi-même ». Regarde, si dans le cantique de l'amour, l'époux ne dit pas la même chose à l'épouse. Si tu ne te connais pas, ô belle entre les femmes, sors. La connaissance de soi consiste en trois considérations. L'homme doit savoir ce qu'il a fait, ce qu'il a mérité, ce qu'il a perdu. Quoi de plus méprisable, ô noble créature, image de Dieu, ressemblance du Créateur, que de déshonorer ta chair par des plaisirs charnels et de perdre pour une jouissance passagère un torrent de jouissance. Quelle plus grande folie furieuse que de laisser la colère s'emparer de l'esprit, de permettre à l'orgueil de le soulever et à l'envie de le tourmenter, à l'angoisse de le torturer. Femme élevée dans la pourpre, pourquoi étreins-tu le fumier ? Rappelle-toi aussi ce que tu as mérité. Remets-toi en mémoire la chaudière de la Géhenne, la fournaise de fer de la grande Babylone, la maison de la mort, le domicile de l'angoisse, le globe enflammé, l'âpreté du froid, les ténèbres éternelles. Considère la gradation des tourments, le faciès des tortionnaires, l'infinité des misères. Avec les yeux de l'intelligence, parcours tout cela et tu pourras t'écrier « Mieux aurait valu pour moi de ne pas être né ». Regarde ensuite en arrière et considère avec attention ce que tu as perdu. Rappelle-toi l'excellence de la glorieuse cité. Elle est la céleste habitation, le lieu de la vie, le palais de la délectation, la splendeur de la gloire, l'ampleur de la grâce, la clarté sans limite. Sois attentif à la gradation des joies, au visage de ceux qui les vivent, à l'enchaînement des récompenses, à la multitude des délices. Tu pourras alors t'écrier « Il a tout perdu, Seigneur Dieu, celui qui t'a perdu. » Par conséquent, si tu entoures ton âme de ce triple cordon, tu pourras et porteras attention sur le fait que le commencement du salut est dans la connaissance du péché. À la suite de l'oracle de Delphes, de Platon et de saint Augustin, Bernard nous enjoint à la connaissance de soi. C'est, selon l'expression d'Étienne Gilson, une forme de socratisme chrétien. Toutes les sciences se fondent sur une science première, la connaissance de soi, qui conduit à la connaissance de Dieu. Tout novice doit commencer par là, en se détournant du monde extérieur. Il y a un triple mouvement dans cette connaissance de soi. D'abord, la connaissance de ce que l'on a fait, la connaissance de ses propres péchés, qui est ce que Bernard appelle la componction. Ensuite, la connaissance de ce que l'on a mérité, la vie de péché conduisant aux enfers. La connaissance de ce qu'on a perdu, à savoir l'état de grâce et de gloire d'avant le péché. Cette triple connaissance peut conduire au désespoir, à la nuit obscure dont parlera saint Jean de la Croix. C'est pour cette raison que connaissance de soi et connaissance de Dieu sont liées. La seule connaissance de sa laideur conduit au désespoir. Et s'il se souvient de sa beauté, il tombe dans la présomption. Bref, l'homme tombe de Charybde en Scylla. La connaissance de soi n'est donc pas une fin en soi, mais un commencement dont la connaissance de Dieu est la finalité. Voilà ce que dit Marie-Madeleine d'Avi à ce sujet. Pourquoi cette présomption et pourquoi ce désespoir né de la dissociation des deux connaissances? L'étude de la connaissance de soi nous le révèle. La connaissance de soi réside dans cette science, ce savoir créé à l'image de Dieu, mais ce savoir aussi dépossédé de la ressemblance, prendre conscience d'être une image de Dieu défigurée. C'est pourquoi Bernard peut dire « Souviens-toi de ta noblesse et sois honteux d'une telle défection. N'ignore pas ta beauté pour être plus confondu de ta laideur. La noblesse, la beauté, c'est l'image. La défection, la laideur, c'est la dissemblance. D'où, si l'homme considère seulement sa beauté, il tombe dans la présomption. S'il regarde uniquement sa laideur, il est l'objet d'un infini désespoir. Et ce désespoir est sans issue. L'homme qui, dans cette dissemblance, se reconnaît difforme et monstrueux, s'abandonne irrémédiablement à une tristesse comparable à cet enfer intérieur dont parle Eckhart. Pratiquement, le noverim me, que je me connaisse, précède le noverim te, que je te connaisse. Si la connaissance de soi se place psychologiquement avant la connaissance de Dieu, c'est parce que l'homme déchu ne peut connaître directement Dieu s'il n'acquiert d'abord la connaissance de lui-même, puisqu'il est l'image de Dieu. Il lui faudra passer par une autre connaissance, celle du Christ, image de Dieu. Selon saint Bernard, la connaissance de soi est un commencement, la connaissance de Dieu, une perfection. La connaissance de soi apprend d'abord à l'homme son lieu dans l'univers. Il sait par là même ce qui est au-dessus de lui et ce qui se place au-dessous de lui. En prenant connaissance d'être une image, l'homme saisit aussitôt son universalité, il apprend le secret de sa création. Cette image de l'homme, Bernard la situe dans le libre arbitre. Non seulement il importe que l'homme sache la grandeur de ce libre arbitre, mais il doit savoir qu'il possède ce libre arbitre. Enfin, il doit l'attribuer à Dieu. Si l'homme reconnaît sa dignité sans savoir qui en est l'auteur, il tombe dans la présomption. Si au contraire, il s'attribue lui-même cette dignité, il sombre dans la vaine gloire. Donc, par la connaissance de soi, l'homme perçoit sa grandeur. Il est image, il sait aussi sa misère, il est défiguré. D'un côté, il ressemble aux anges, de l'autre, il est apparenté aux bêtes. Il est au-dessus des animaux par son libre arbitre, il est au-dessous des anges par l'ignorance de sa dignité. Bernard lègue aux Victorins, à Montaigne, à Pascal, cette notion de l'homme à la fois ange et bête. L'ignorance de soi est grave car elle est le début du péché. Ainsi, l'âme qui refuse d'entrer à l'intérieur d'elle-même pour se connaître se tourne aussitôt vers les choses de l'extérieur et se tournant vers elles, elle s'y conforme. C'est ainsi qu'elle s'adonne à la curiosité, qui est le premier stade de la dégradation de l'âme. Curiosité qui est opposée à l'humilité. Si le moine se laisse envahir par la curiosité et de ce fait se refuse à la connaissance de lui-même, il devient aussitôt semblable aux animaux sans raison et suivant cette terrible parole du Cantique des Cantiques, il sort faire paître ses boucs, il alimente ses yeux et ses oreilles qui se nourrissent misérablement. Quatrième point, la connaissance et l'amour de Dieu. Le désir naturel de connaître et d'aimer Dieu. Le Dieu de Bernard n'est pas le Dieu des philosophes, mais comme le dit Pascal, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire un Dieu personnel, révélé, que l'on rencontre non par le raisonnement, mais par la foi et l'amour. Bernard ne fournit aucune preuve de Dieu. Il est pour lui évident, parce que vivant et éprouvé dans la vie intime et intérieure de l'homme. Et l'homme n'a qu'un seul but, parvenir à sa contemplation. Il s'agit alors de passer de la considération à la contemplation. La considération ou méditation a pour but de rechercher la vérité, alors que la contemplation suppose la connaissance de la vérité. Si la considération est une activité intellectuelle et critique, la contemplation est davantage de l'ordre de l'intuition, de la connaissance directe. La contemplation de Dieu suppose un médiateur, le Christ. Les quatre degrés de l'amour de Dieu. vous lis un texte extrait de l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il dit Bernard. Toutefois, puisque nous sommes tous charnels et que nous naissons du désir de la chair, il est inévitable que notre convoitise ou notre amour commence par la chair. Si la convoitise est bien dirigée, elle progressera par des degrés qui lui sont propres, sous la conduite de la grâce, et parviendra finalement à son achèvement sous l'action de l'esprit. Car ce qui paraît en premier lieu, ce n'est pas l'être spirituel, mais l'être animal. Le spirituel ne vient qu'ensuite. Ainsi, dans ce second degré, l'homme aime Dieu, mais pour soi-même et non pour Dieu. Cependant, une fois que par intérêt, il a commencé à le vénérer et à le fréquenter par la méditation, la lecture, la prière, l'obéissance, il entre dans sa familiarité. Peu à peu et graduellement, Dieu se fait connaître et ensuite il communique la douceur de sa présence. Ainsi, pour avoir goûté combien le Seigneur est doux, l'homme passe au troisième degré, de sorte qu'il aime Dieu non plus pour soi-même, mais pour Dieu. Bien sûr, on reste longtemps à ce degré. Je ne sais si un homme en cette vie arrive à atteindre parfaitement le quatrième degré, celui où l'homme s'aime uniquement pour Dieu. Libre à certains de l'avouer s'ils en ont fait l'expérience, pour moi, je l'avoue, cela me semble impossible. Cela se produira certainement quand le serviteur bon et fidèle aura été introduit dans la joie de son Seigneur et sera enivré de l'abondance de la maison de Dieu. D'une façon merveilleuse, il s'oubliera soi-même, il cessera définitivement de s'appartenir et il se transportera tout entier en Dieu. S'attachant désormais à Dieu, il deviendra un seul esprit avec lui. Je crois que le prophète avait cette expérience lorsqu'il disait « J'entrerai dans les puissances du Seigneur. Seigneur, je garderai mémoire uniquement de ta justice. » Il savait certainement qu'à son entrée dans les puissances spirituelles du Seigneur, il serait dépouillé de toutes les faiblesses de la chair, de sorte que, n'étant plus obligé de penser aux exigences de son corps, il pourrait consacrer tout son esprit à se remémorer uniquement de la justice de Dieu. Dans le premier degré d'amour, l'homme s'aime lui-même pour lui-même. Il s'agit d'un amour que Bernard caractérise de charnel, mais qui est nécessaire. Il occupe toute l'activité de l'homme dans les commencements de sa vie. C'est cet amour que la charité vient assumer et subordonner pour ne pas qu'il se dérègle et se transforme en cupidité. La cupidité est la déviation morbide et pécheresse du légitime amour de soi. Au deuxième degré, Dieu est aimé pour soi et non pour lui-même. C'est une sorte d'amour mercenaire, intéressé, qui est le lot des croyants ordinaires ayant besoin de grâce, de signes, de protection. Il est aussi lié à la peur de l'enfer et à la punition du péché. Au troisième degré, Dieu est aimé pour lui-même et en lui-même. On aime Dieu comme il nous aime, gratuitement. C'est l'amour de charité, le don de l'Esprit-Saint auquel il participe. Au quatrième degré, l'homme s'aime uniquement pour Dieu. Cela signifie que sa volonté propre est totalement confondue avec la volonté divine. C'est l'expérience de l'union mystique, de l'unité spirituelle avec lui. C'est l'expérience de ce qu'on va maintenant étudier, à savoir l'extase et la déification. Voilà ce que dit plus précisément Bernard de ce quatrième degré d'amour, toujours dans le même livre, L'amour de Dieu. Heureux qui a mérité d'atteindre le quatrième degré où l'homme ne s'aime plus que pour Dieu. Ta justice, Seigneur, ressemble aux montagnes de Dieu. Cet amour est une montagne et une haute montagne de Dieu. C'est bien une montagne solide, une montagne fertile. Qui gravira la montagne du Seigneur? Qui me donnera des ailes de colombe? Je m'envolerai et me reposerai. Ce lieu a été établi dans la paix et cette demeure se trouve en Sion. Quand cette âme se dirigera-t-elle tout entière vers Dieu pour s'attacher à Dieu et devenir avec lui un seul esprit? Alors elle pourra dire « Ma chair et mon cœur ont défailli, Dieu dont mon cœur est ma part, c'est Dieu pour toujours. je proclamerai saint et bienheureux celui à qui il a été donné de faire l'expérience d'une telle faveur en cette vie mortelle à de rares moments, ou même une seule fois, et cela en passant, et à peine l'espace d'un instant. Se perdre en quelque sorte comme si l'on n'existait pas, ne plus avoir aucune conscience de soi-même, être arraché de soi-même et presque réduit à rien, tout cela appartient à la condition de l'homme céleste et non plus à la sensibilité de l'homme terrestre. Toutefois, puisque l'Écriture dit que Dieu a tout fait pour lui-même, il arrivera assurément qu'un jour l'œuvre se conforme à son auteur et s'accorde à lui. Il faut donc qu'un jour ou l'autre, nous entrions dans son sentiment. Comme Dieu voulut que tout existât pour lui, aussi faut-il que nous aussi voulions que ni nous-mêmes, ni rien au monde n'ait existé ou n'existe que pour lui, c'est-à-dire pour sa seule volonté, non pour notre plaisir. Notre choix ne sera pas tant d'apaiser nos besoins ni d'assurer notre bonheur, que de voir l'accomplissement de sa volonté en nous et par nous. Être ainsi touché, c'est être déifié. De même qu'une petite goutte d'eau versée dans beaucoup de vin semble s'y perdre totalement en prenant le goût et la couleur du vin, de même que le fer plongé dans le feu devient incandescent et se confond avec le feu, dépouillé de la forme antérieure qui lui était propre, et de même que l'air inondé de la lumière du soleil se transforme lui-même en clarté, si bien qu'on le croirait être la lumière plutôt qu'être illuminé, ainsi sera-t-il nécessaire que chez les saints, tout attachement humain se liquéfie d'une façon indicible et se déverse totalement dans la volonté de Dieu. Je crois, pour ma part, qu'on observera en toute perfection le commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toutes tes forces. » Je crois pour ma part qu'on observera en toute perfection le commandement « Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces » qu'au moment où le cœur lui-même ne se sera plus contraint de penser au corps, où l'âme cessera de lui donner la vie et la sensation de son état actuel où la force, soulagée des peines inhérentes à ce corps, sera affermie par la puissance de Dieu. La raison en est qu'il n'est pas possible de recueillir parfaitement en Dieu cœur, âme et force, et de les placer devant sa face aussi longtemps qu'attentifs à ce frêle corps accablé de misère, écartelé par lui, ils doivent assurer son service. Par conséquent, c'est dans un corps spirituel et immortel, dans un corps intègre, paisible, pacifié et soumis en tout à l'esprit, que l'âme peut espérer saisir le quatrième degré de l'amour, ou plutôt être saisie en lui, car c'est à la puissance de Dieu de donner ce corps à qui il veut, et non aux ailes de l'homme de l'obtenir. Alors, dis-je, elle l'obtiendra facilement, le suprême degré, quand elle s'élancera dans une course rapide et fervente vers la joie de son Seigneur, sans qu'aucune séduction charnelle ne le retarde, ni qu'aucune importunité ne l'inquiète. L'extase ou la déification est l'expérience pleine du Dieu amour de charité. La charité, explique Marie-Madeleine d'Avy, qu'a Dieu pour lui-même devient donc la charité de l'homme pour Dieu. L'homme aime Dieu par la même charité selon laquelle Dieu s'aime lui-même. C'est l'union de la volonté divine avec la volonté humaine. Unité non pas intellective, mais des vouloirs. C'est une unité d'amour. Dieu s'épanche et se donne parce que l'homme s'est arraché à soi-même. Il s'agit d'anéantir sa volonté propre et de maîtriser les passions corporelles. Il y a dans cette-là tout un délaissement, un détachement, un oubli du corps jusqu'au maximum possible. Le corps est réduit à un état purement physiologique. Il est presque réduit à rien. L'extase nécessite d'être mort au sens, à la convoitise, aux images et aux représentations imagées et humaines de Dieu. Bernard décrit ainsi l'extase comme un arrachement de soi et en même temps l'entrée de l'amour de Dieu en l'âme du fidèle. Cette extase est appelée par Bernard, à la suite de Maxime le Confesseur, « excessus mentis », un excès de l'esprit ou excès spirituel, où l'esprit dépasse ses propres bornes humaines et devient l'espace d'un instant divin. Et Bernard insiste sur la rareté et la fugacité de cette expérience. Comme le dit Marie-Madeleine Davy, l'excessus a pour effet, chez celui qui aime, de le faire se dépasser lui-même pour être tout entier dans l'être aimé, de telle sorte qu'il ne lui reste plus rien à vouloir pour lui-même. Toute chose va à Dieu par sa nature même. L'être intelligent va à Dieu par la connaissance et l'amour. Normalement, ici-bas, il va à Dieu par des intermédiaires, les pensées et les mots qui les expriment. Dieu est pur esprit et peut se communiquer directement à l'être raisonnable qui en soi est esprit, encore que toute son activité d'esprit soit conditionnée d'une certaine façon par son corps. On peut donc concevoir que Dieu se communique à l'âme et que l'âme puisse être ravie jusqu'à cette union, pour ainsi dire directe avec Dieu, comme arrachée à sa manière habituelle d'entrer en contact avec Dieu, sans avoir à utiliser ni ses connaissances naturelles, ni ses sens externes ou internes, ni son raisonnement. Une telle surélévation est évidemment le résultat d'une opération divine, d'une intervention spéciale du Saint-Esprit. Celui qui est élevé à cette grâce extraordinaire se sent envahi comme par la visite de Dieu, par une présence, apportant avec elle des lumières de sagesse et de science, et surtout un sentiment de fusion béatifiante de son amour en l'amour de Dieu. Bernard décrit cette expérience à l'aide de métaphores prises à la tradition. La goutte d'eau versée dans beaucoup de vin, le fer plongé dans le feu qui devient incandescent, l'air inondé de la lumière du soleil qui se transforme lui-même en clarté. Cependant, cette union à Dieu n'est pas une confusion des natures ou des substances humaines et divines. Je vous laisse lire un texte qui se trouve, qui est le Sermon 71, qui est dans votre fichier PDF, sur la distinction entre un seul et un seul être. L'union de l'âme à Dieu, des volontés dans l'amour, n'est cependant pas une confusion substantielle des natures divines et humaines. L'homme reste dans son statut de créature finie. L'extase n'est pas une perte de notre nature de créature. Nous ne devenons pas Dieu. Nous restons créature. Avec la tradition, Bernard pense ce point à l'aide de la distinction unus-unum. Un seul être désigne l'unité substantielle, tandis qu'un seul, unus, désigne l'unicité d'une personne. Il y a une différence entre un seul et un seul être. Le Père et le Fils sont un seul être, à savoir une seule substance, mais non pas une seule personne, unus. L'unité entre l'homme et Dieu n'est pas une unité de substance. Pas identique à l'unité substantielle du Père et du Fils. Il y a unité cependant, cette unité cependant ne se confond pas avec les natures, mais c'est celle d'un accord des volontés. La volonté devient divine, mais Dieu ne devient pas la volonté de l'homme. L'amour de Dieu reste amour substantiel, mais donne à l'homme de pouvoir y participer. Elle est, pour lui, charité accidentelle. Donc nous venons de voir que pour Bernard, le présupposé nécessaire et indispensable à notre déification consiste dans le développement d'une vertu qui est l'humilité. Chez Maître Eckhart, que nous aborderons la prochaine fois, aucune vertu n'est à ce point nécessaire. Mais il y a une exigence encore plus radicale, qu'Eckhart appelle le détachement. L'union mystique chez Bernard, union des volontés divines et humaines. Chez Eckhart, c'est l'intellect qui, écrit-il dans l'un de ses sermons allemands, est le temple de Dieu. Bernard maintient la distinction créateur-créature. Chez Eckhart, il y a certes la même distance, mais réduite à son maximum.